Makoy à Dakar, 22h à N'Djamena. Bienvenue dans Sahel Plus, préparé et présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous, aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Après le bulletin d'information, nous ouvrirons l'émission par le Mali. Le président Ibeka a réuni les leaders politiques de tous bords afin d'essayer de trouver une sortie de crise. Nous évoquerons le déclin de la production de café en Afrique dans notre dossier.
Lorsque le café a des problèmes, tous les intermédiaires, les torréfacteurs, les transporteurs, les usiniers sont touchés. Deuxième chose, c'est cette difficulté à recycler cette main-d'œuvre qui était dans le café.
Nous serons au Sénégal pour notre page culture, pour un détour à la Biennale d'art contemporain de Dakar. Enfin, rubrique African Voice, seconde partie de notre entretien avec l'avocat Adeola Austin Oyinlade, qui évoquera les droits civiques au Nigeria. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous et bienvenue à ce tour d'horizon de l'actualité. Issa Napo au micro de la Voix de l'Amérique à Washington. Et nous commençons par des nouvelles du nord-est du Nigeria où de nouvelles attaques contre des villages ont fait des centaines de morts et comme toujours, Boko Haram est désigné du doigt Bagassikoura.
Selon des témoins, des hommes armés ont attaqué au moins 3 villages lundi et mardi dans la région de Gwoza dans l'état de Borno, fief du groupe islamiste radical. Il a fallu 2 jours pour que des survivants arrivent à Maïdougouri, la capitale de l'État, pour signaler ces attaques. Le réseau téléphonique est très pauvre dans cette zone et les conditions de voyage sont extrêmement dangereuses. Selon ces témoins, les assaillants habillés en tenue militaire ont ouvert le feu sur les villageois et ont brûlé des maisons. Boko Haram aurait même hissé son drapeau dans plusieurs villages. Par ailleurs, à Madagali, dans l'État voisin d'Adamawa, l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique a indiqué que des membres présumés de Boko Haram ont incendié un bâtiment public et une église. Et selon une autorité locale, le personnel de sécurité a fui la région.
Merci Bagassikoura. Début aujourd'hui à Alger des consultations exploratoires avec les groupes armés du Nord malien. Cette rencontre intervient après le cessez-le-feu du 23 mai dernier qui a mis fin aux affrontements de Kidal. Le Mali qui souhaite, on le rappelle au passage, instaurer le service militaire obligatoire pour les hommes et femmes entre 18 et 35 ans. L'annonce a été faite à l'issue du Conseil des ministres et avant d'entrer en vigueur en 2015, le texte devrait d'abord être voté à l'Assemblée d'ici à la fin de l'année. 6 personnes dont 3 enfants ont été tuées ce jeudi dans un glissement de terrain suite à de fortes pluies dans les bidonvilles à Abidjan. Ces glissements de terrain ont eu lieu dans des quartiers précaires de Mossikro dans l'ouest d'Abidjan où les habitants vivent dans des baraquements installés souvent sur le flanc ou au bas des collines. Au Congo-Brazzaville, le leader de l'opposition, Mathias Dion, affirme que les services de sécurité l'ont empêché de prendre l'avion hier pour Paris. L'ancien ministre des Finances du président Denis Sassou Nguesso, passé maintenant dans l'opposition, dit n'avoir obtenu aucune explication de la part des autorités congolaises. Rebondissement politique en Libye où 2 gouvernements se disputent la légitimité. À l'issue d'une session, un procureur a déclaré l'élection du nouveau Premier ministre Ahmed Maïtik illégale à la Cour suprême qui devra donc trancher lundi.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les dirigeants du G7, le groupe des 7 principaux pays industrialisés, se sont réunis aujourd'hui à Bruxelles pour une 2e journée consécutive. Les discussions ont été dominées par l'ingérence de la Russie dans la crise en Ukraine. Élection présidentielle en Syrie, Bachar el-Assad a remporté une victoire écrasante avec près de 89% des suffrages. Le vote, qui s'est déroulé uniquement dans les zones contrôlées par le gouvernement, accorde au leader syrien un 3e mandat de 7 ans. Le vote est rejeté par les États-Unis et l'Union européenne. Au Yémen, des militants présumés d'Al-Qaïda ont attaqué un poste militaire dans le sud du pays, tuant au moins 14 soldats et fait plusieurs blessés. Au moins 500 militants d'Al-Qaïda ont été tués depuis avril dans le cadre d'une offensive de l'armée yéménite, a déclaré un porte-parole de l'armée. 40 militaires ont péri dans cette campagne. Aux États-Unis, ici, un avion des Marines s'est écrasé hier sur un quartier résidentiel du sud de la Californie. Au moins 2 maisons ont été détruites, mais aucune victime n'a été signalée. En moins d'un mois, c'est le 2e crash d'un appareil du même type ayant décollé de la base aérienne de Yuma en Arizona. Fin de cette page d'information, bonne suite de programme et nous retrouvons tout de suite Claire Morin-Gibourg pour la suite de Sahel Plus.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus et nous ouvrons l'émission par le Mali. Pour essayer de trouver une sortie de crise, le président Ibrahim Boubacar Keïta a réuni tous les leaders politiques du pays, de l'opposition comme de la majorité. L'opposition est favorable au cadre de concertation créé pour l'occasion, mais elle demande aussi une feuille de route détaillée pour sortir le pays de la crise. À Bamako, le reportage de notre correspondant Kassim Traoré.
8 mois après sa prise de fonction, le président de la République du Mali a échangé avec la classe politique. Les échanges ont commencé avec la formation de la majorité présidentielle.
La difficulté aussi réside dans le fait international. Nous sommes entre Maliens. Il y a seulement un mouvement qui dit qu'il n'est pas malien. Alors donc ceux qui ont dit qu'ils sont maliens et qui ont d'autres conceptions de la vie doivent se donner rapidement la main pour aller au dialogue.
Aujourd'hui, l'ère n'est pas au discours va-t-en-guerre. L'ère est à la réconciliation entre Maliens et le dialogue est inclusif. Est la seule voie possible pour le Mali.
Les leaders de l'opposition ont été reçus quelques heures après. Ibeka a fait le point de la situation de Kidal jusqu'à l'affrontement du 21 mai dernier. Il dira à ses interlocuteurs qu'il n'a pas donné l'ordre d'attaquer la position rebelle. Modibo Sidibé, président du parti phare.
Partie de l'opposition pour leur faire part d'un certain nombre d'informations sur la situation grave que vit notre pays. Ces informations nous sont utiles pour également parler éventuellement d'un cap d'échange qui se mettra en place dans le respect du jeu républicain. Et je crois que ça, nous le saluons en tant que tel, parce que vous le savez tous, vous comme moi, nous sommes tous des Maliens, nous sommes tous des patriotes et nous vivons très ardemment ce qui se passe dans notre pays.
L'opposition malienne veut travailler dans un cadre de concertation avec le président de la République, mais cela en fonction d'un chronogramme bien établi. Soumaïla Cissé, président de l'URD.
Nous avons besoin de méthodes que nous nous respections les uns les autres. Je pense que le chef de l'État a pris bonne note. L'étape de Kidal a été une étape très douloureuse pour l'ensemble des Maliens. A été une étape très douloureuse pour nous à l'opposition. C'est pour ça que nous souhaitons que les responsabilités soient clairement situées pour que nous ne retombions plus dans des situations d'humiliation comme celles que nous avons connues le 20e mai dernier.
Ibeka a décidé de renouer le contact avec les leaders de l'opposition, cela en vue de trouver une solution commune à la crise que connaît le Mali dans sa partie septentrionale. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Bamako, vous nous écoutez sur le 102.fm. Notre dossier consacré au déclin de la production de café en Afrique. Les producteurs africains de café se sont donc réunis au Cameroun pour tenter de relancer cette production qui, selon certaines estimations, aurait chuté jusqu'à 70% dans certains pays. Les explications de Nicolas Pinault.
Oui, le règne de l'Afrique sur le café et le cacao s'est achevé il y a longtemps. Si dans les années 80, le continent produisait 40% du café mondial, il ne représente aujourd'hui qu'à peine 10%. Pour l'exportateur camerounais Bouinda Albert, il ne fait aucun doute que la crise économique de la fin des années 80 et du début des années 90 a été fatale à l'Afrique. Les gouvernements africains ont suspendu leur aide financière et technique aux producteurs de café, selon lui. Parmi les autres facteurs cités pour ce déclin, le changement climatique, le vieillissement des plantations et l'abandon du secteur au profit du pétrole et autres ressources minérales. En conséquence, des millions d'Africains qui vivaient du café se sont retrouvés au chômage, souligne l'analyste Roger Betala.
Lorsque le café a des problèmes, tous les intermédiaires, les torréfacteurs, les transporteurs, les usiniers sont touchés. Deuxième chose, c'est cette difficulté à recycler cette main-d'œuvre qui était dans le café. La perte de la compétitivité et des performances du café amène beaucoup d'intervenants à se retrouver sans emploi. Donc la baisse des prix du café sur les marchés internationaux a été très préjudiciable aux économies de cette zone.
Le PIB de nombreux pays africains a souffert de la crise du secteur, ajoute M. Betala.
Au Cameroun, par exemple, le café entrait dans la constitution du produit intérieur brut autour de 15 à 20%. Mais aujourd'hui, c'est peut-être même moins d'1% du produit intérieur brut du Cameroun aujourd'hui vient du café.
La rencontre de Yaoundé vise à identifier les moyens pour augmenter la production d'au moins 50% en 2 ans. Pour Bédimo Joseph de la Communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, le CEMAC, l'Afrique doit travailler avec les géants du café des autres continents, tels que le Brésil, qui représente aujourd'hui un tiers de la production mondiale de café.
Nous avons dans nos collections, par exemple, quand je voulais parler des collections de café arabica, on a 217 génotypes. De ces génotypes, nous faisons la sélection variétale. Pour l'instant, il y a un travail qui est fait sur le terrain avec des génotypes qui nous sont venus d'Amérique latine et que nous essayons de travailler avec les autres collaborateurs brésiliens, français, etc.
John Schroeter de l'ONG Coffee Africa ne doute pas de la capacité de pays tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou encore la République démocratique du Congo à atteindre les objectifs fixés. La consommation de café augmente à travers le monde et le café africain est appelé à rejouer un rôle de premier plan selon lui. La recherche, l'application d'engrais, le rajeunissement des plantations sont autant de mesures qui peuvent assurer la relance du secteur, affirme-t-il.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique, 99 FM, notre fréquence à Bamako. Direction le Sénégal pour notre page culture, alors que la Biennale de l'art africain contemporain va fermer ses portes le week-end prochain, les expositions se succèdent. Le programme OFF est aussi intéressant. La Poste du Sénégal a ainsi présenté sa collection de timbres, une exposition qui retrace l'histoire du pays, de l'indépendance à nos jours. Reportage à Dakar de notre correspondante Diana Bassedouba.
Dans le cadre de la programmation OFF de la Biennale de Dakar, la Poste sénégalaise a proposé sa collection de timbres. Les responsables veulent faire la promotion de la philatélie. La philatélie, c'est l'art de collectionner les timbres postaux et timbres fiscaux et de les étudier. Fatou Diaw, responsable de l'exposition.
Ces timbres-là représentent tous les aspects de la vie d'une nation. On dit que le timbre est un ambassadeur pour le pays qui l'aimait, parce que par la magie, comme je le disais tout à l'heure, des affranchissements et de la collection, ces timbres-là pénètrent dans tous les foyers du monde entier pour renseigner sur la vie du pays. Et elle prend aussi en compte les grands événements mondiaux et nous travaillons, et la philatélie est basée aussi sur un programme de l'agenda culturel du pays. Tous les événements qui se passent pendant l'année sont pris en compte dans le cadre du programme philatélique annuel.
La Poste a toujours essayé, tant bien que mal, à accompagner les artistes sélectionnés pour le Dakar en les intégrant dans les images des timbres. Hussein Ouad est le directeur des arts.
Et j'ai donné pour exemple l'édition spéciale de timbre Poste portant sur le logo de la Biennale et les œuvres de trois artistes primés en 1996 et en 1998 et 2000. Il s'agissait précisément des artistes Moustapha Dimé, Vie Diba et Ablaye Konaté. Je dois dire que Moustapha Dimé a fait l'objet disons d'une distinction à la Biennale de 92. Et l'édition de Timbre Poste s'est réalisée en 2002 à l'occasion du 10e anniversaire de Dak Art.
Hormis les timbres, un artiste, agent de la Poste, a exposé sur le thème des baobabs. Son nom, Alunsen.
Moi, je travaille uniquement sur le baobab parce que j'ai vécu presque 8 ans sous un baobab. Donc, dans la grande cour du bureau de poste de Rufis, il y avait un baobab. J'ai commencé à les ramasser, à les garder sans arrière-pensée. Après, l'inspiration est venue pour me montrer que peut-être je pouvais travailler sur le fruit du baobab et en faire des bonhommes, en faire des visages.
Depuis 24 ans, la Poste participe à toutes les programmations des expositions OFF de la Biennale de l'art africain contemporain. Une exposition ouverte tout le long de la Biennale au grand bonheur des collectionneurs de timbres. Diana Bassedouba, Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Je dis personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Il faut se lever, lever, lever pour changer tout ça.
Nous nous rendons au Nigeria pour notre rubrique interactive. Notre correspondant Ali Cabré a rencontré l'avocat et militant des droits civiques et des libertés publiques, Maître Adeola Austin Oyinlade. Il revient sur l'impact des bouleversements au sein des partis politiques au Nigeria. Cela peut-il affaiblir la démocratie? Les réponses de Maître Adeola Austin Oyinlade.
What we are witnessing in Nigeria at the moment is what I will call a political drama.
Ce que nous voyons en ce moment au Nigeria est ce que j'appelle du théâtre politique, une situation dans laquelle des gens quittent des partis politiques pour rejoindre d'autres partis politiques, généralement pour des intérêts personnels. Et si les partis qu'ils viennent de rejoindre ne leur sont pas très favorables, ils retournent dans leur parti d'origine. Quel impact cela peut avoir sur la démocratie, je n'en vois pas. parce que le mobile derrière ces démissions ne s'inscrit pas dans la recherche de l'intérêt général des Nigériens. C'est juste une classe politique qui cherche et défend ses intérêts à l'horizon des échéances électorales de 2015. Et si leurs intérêts ne sont pas garantis au sein d'une formation particulière, ils se mettent à chercher des plateformes politiques où ils peuvent réaliser leurs ambitions personnelles.
If you look at the parties we have here in Nigeria, you can single out, I mean, sharp contracts between one political party and another.
Si vous observez les partis politiques au Nigeria, vous aurez du mal à trouver des chartes politiques entre les partis. Je crois donc que les partis politiques que nous avons sont juste des plateformes électorales et une fois les gens sont élus à des postes, ils dirigent comme ils veulent. C'est un théâtre politique amusant. Hier encore, j'apprenais que des députés qui avaient rejoint un parti politique sont revenus dans le parti qu'ils avaient quitté en l'espace de quelques 2 semaines seulement. Cela montre que la plupart de ces partis n'ont vraiment pas à cœur une cause qui va façonner l'avenir du pays, qui va impacter positivement sur la vie du citoyen lambda. C'est plutôt pour des intérêts politiques égoïstes.
À vous écouter, on a l'impression qu'il n'y a pas de balise, de forme d'éthique pour les politiciens au Nigeria.
The way I will respond to this question is saying that politicians are only taking advantage of the situation of poverty in the land. They understand.
Je dirais simplement que les politiciens profitent de la situation de pauvreté qui sévit dans le pays. La pauvreté des gens a atteint un niveau qu'il suffit de donner des miettes aux gens pour acheter leur voix. Les politiciens savent et croient que l'opinion du citoyen ne les engage en rien. Ils ont compris que même s'ils ne remplissent pas leurs engagements, lorsque viendra le temps du vote, ils n'auront qu'à donner de l'argent aux gens et ceux-ci vont se calmer. À ce que je vois et en l'état actuel des choses, conquérir un poste relève du jeu du plus offrant. Et qui sont ceux qui font le jeu? Et qui sont donc ceux qui font ce jeu? Ce sont les politiciens. Qu'est-ce qu'ils mettent en jeu? Rien d'autre que l'argent. Et c'est là où ils exploitent et profitent des Nigériens.
Nous retrouverons la dernière partie de cet entretien avec Maître Adeola Austin Oyinlade demain. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Michel Joseph. À la console, Glenn Van Calio. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Pedro Kouyaté et son morceau Love Song, issu de son 3e album live. Pedro Kouyaté sera en concert à Paris à la Bellevilloise le samedi 14 juin prochain. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Jarabi 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 Fema Jarabi bo Fema Jarabi bo Fema Jarabi bo Fema Jarabi bo Fema Jarabi bo
La Voix de l'Amérique vous propose maintenant
Un dossier spécial sur la République centrafricaine.